RCF.
Et en ce jeudi saint, comme tous les jours de la semaine, nous retrouvons le 18-19 avec Alexis Claudretz.
Et je ne ferai que passer rapidement ce jeudi soir le temps de saluer Marion Yernard qui nous présentera la météo à l'intérieur du journal régional de 18h30. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Un journal, un magazine régional ce jeudi articulé autour de la Semaine Sainte. Vous allez découvrir les étapes au fur et à mesure. On vous a concocté un programme aux petits oignons. En ce jeudi saint, l'historien Patrick Demuy ouvre le magazine régional et évoque avec Jean-Pierre le thème « Les représentations du temps pascal à la cathédrale ».
Avec nous aujourd'hui Patrick Demuy. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est vrai qu'autour de Pâques, autour de la Semaine Sainte et dans le temps pascal, on peut évoquer avec vous le patrimoine parce que la cathédrale de Reims, la cathédrale Notre-Dame est une véritable catéchèse et justement sur sa façade et même à l'intérieur, on peut y lire des moments importants de la vie liturgique et en particulier à la fois de la Semaine Sainte et du temps pascal.
Oui, la cathédrale de Reims, c'est une croix véritablement plantée au milieu de la ville. Et bien sûr, on peut penser à la croix que tient l'ange Girouette située sur le clocher dominant le chevet, mais déjà, c'est le plan dont il faut se souvenir. Le plan est un plan en croix latine. Je crois qu'on l'appréhende assez bien quand on est à l'intérieur. La nef, le cœur et les deux bras du transept, on le voit encore mieux sur une photo aérienne où la toiture dessine véritablement une croix sur la cité. Et je me rappelle de cette citation d'un aviateur au moment du drame de 1914, quand il survolait la ville avec la cathédrale qui avait brûlé, il voyait une croix de feu au-dessus de la cité. C'est une croix vraiment inscrite au cœur de la ville. Alors la croix, évidemment, nous la retrouvons de multiples reprises dans la cathédrale, sur la façade, on parlera dans un instant pour terminer, parce que c'est ce qui est le plus riche, mais évidemment à l'intérieur, dès qu'on rentre dans la grande église, il y a en face de nous le maître-autel avec cette croix qui vient du sacre de Charles X, entourée des chandeliers, et puis la croix du Christ, nous la retrouvons dans les vitraux, toujours dans l'axe d'ailleurs. C'est vraiment la façon de donner la direction qu'il faut suivre. Alors, c'est la croix du Christ située dans les fenêtres hautes du chœur, dans un vitrail qui date des années 1230, où le Christ est représenté entre la Vierge et Saint Jean avec le calice au pied de la croix qui recueille son sang, mais nous retrouvons aussi, toujours dans l'axe, mais plus bas, dans la chapelle.
J'ose à peine vous poser la question et vous interrompre, oui. Patrick Demuy, mais là, vous avez trouvé que je suis vraiment hyper néophyte, mais vous parlez de vitraux de 1210, mais ces vitraux, ils ont traversé quand même ces siècles, alors que il y a eu l'incendie de la cathédrale, la guerre de 14, mais entre-temps, il y a eu des destructions.
Les vitraux, des fenêtres hautes, dans le cœur, on peut être sauvé. Il y a eu des destructions dans le bras sud, dans une partie de la nef, au moment de la guerre. Et bon, les vitraux du chevet, dans les parties hautes, ont été en partie préservés. Il a fallu les restaurer, bien sûr, après la guerre, mais ils ont été en partie préservés. Et d'ailleurs, avant le drame de 1917, où les bombardements étaient encore plus intenses, et ils ont pu être déposés par les pompiers de Paris. Ça a été une intervention extraordinaire qui a permis de sauver ce patrimoine. Et donc de sauver cette belle image du Christ en croix qui domine tout le cœur de la cathédrale et auquel répond, alors beaucoup de façon beaucoup plus récente, puisque ça date de 50 ans, les vitraux de Marc Chagall, où la fenêtre axiale représente également, dans la chapelle absidiale, le Christ en croix, mais aussi la descente de croix et la résurrection. Alors, évidemment, tout ne s'arrête pas à la croix, à la passion, et c'est ce que montre très précisément la façade. Et la façade de Notre-Dame de Reims est vraiment une proclamation de la victoire sur la mort. Donc c'est extrêmement important de voir cette façade, si vous voulez, en sortant de la messe ou en y allant, mais en ayant tout à fait à l'esprit les textes liturgiques. Car sur cette façade, nous avons à gauche, c'est-à-dire du côté nord, le grand portail qui a été restauré il y a maintenant une vingtaine d'années représentant la passion, le Christ en croix, avec le coup de lance qui lui transperce le flanc, et puis dans les voussures, malheureusement assez abîmées en 14, de ce portail, il y a des représentations de la passion, depuis les rameaux jusqu'au jardin des Oliviers, le portement de croix. Ça n'est plus toujours facile à voir aujourd'hui, mais il y a encore des vestiges importants. Mais surtout, pour rester dans notre thématique, c'est la proclamation de la résurrection, qui sur cette façade est tout à fait originale. On n'a pas représenté dans un gable, dans une grande sculpture occupant un tympan ou un pignon, le Christ sortant du tombeau. Sa place aurait été au centre, mais le portail central est dédié à Notre-Dame, et à la grande sculpture qui domine la façade, c'est le couronnement de la Sainte Vierge. Alors, pour traiter la résurrection du Christ, ont été convoqués les grands témoins. Et c'est en cela qu'il est intéressant d'avoir précisément en tête les textes même du jour de Pâques. Car qui sont ces témoins de la résurrection? Mais ce sont d'abord, à droite de la Grande Rose, Sainte Madeleine et Saint Pierre, et puis plus à gauche, Saint Jean. C'est l'évangile du dimanche de Pâques. Quand Madeleine s'en va de bon matin au tombeau, elle trouve qu'on a roulé la pierre, mais elle n'ose pas rentrer, et elle se tourne vers Simon-Pierre, on a enlevé le Seigneur, et Jean arrive à ce moment-là aussi. Et nous avons ce dialogue sur le côté droit de la Grande Rose. Nous voyons Madeleine qui agite les mains, elle apparaît bouleversée, Pierre est interloqué, il retourne la main dans un reste d'étonnement. Vous savez, dans cette statuaire, nous avons une gestuelle qui évoque celle des acteurs sur une scène de théâtre, et après tout, il y avait aussi, nous savons, au Moyen-Âge, des drames liturgiques qui étaient joués sur les parvis, ou je dirais même à l'intérieur aussi, parce que le récit de la Passion, comme nous le faisons encore aujourd'hui, est à plusieurs voix, et peut-être assez animé, assez théâtralisé. Et nous avons vraiment ici la réaction des premiers témoins devant le tombeau vide. Et c'est l'évangile du dimanche. Et à la messe du soir, de Pâques, qu'est-ce que nous disons encore aujourd'hui? L'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Et les pèlerins d'Emmaüs, nous les voyons aussi sur la façade. Alors il y a à gauche de la Grande Rose un personnage que certains n'identifient pas très bien. Il a un chapeau sur la tête, un grand manteau. Mais quand on regarde avec attention, il y a derrière sa tête ce qu'on appelle un nimbe crucifère, c'est-à-dire une auréole marquée d'une croix. Et ça, c'est l'apanage du Christ dans l'iconographie du Moyen-Âge. Il s'agit bien du Christ, mais vêtu comme un voyageur, et qui s'adresse à deux pèlerins. Alors les pèlerins sont un peu plus petits, ils sont situés de chaque côté de la rose, ils ont été restaurés, l'un d'eux est tout neuf, il a été replacé lors des grandes restaurations de 2016, d'après les originaux, l'autre était une copie de l'original maintenant conservé au palais du Tau, et ces pèlerins sont bien reconnaissables parce qu'ils sont habillés comme les pèlerins du Moyen-Âge, avec leur grand bourdon, le bâton à la main, celui de gauche a même sur sa besace une copie de Saint-Jacques, l'insigne des pèlerins encore de nos jours, et ces pèlerins, nous le savons bien, reconnaissent à la fraction du pain celui avec lequel ils ont cheminé et qui leur expliquait les Écritures pour leur montrer comment le Christ devrait souffrir et ressusciter. C'est une très belle catéchèse, cette façade.
Et justement, alors j'enfonce là aussi une porte ouverte, Patrick Demuy, c'est que on rappelle souvent, même pour des jeunes qui se trouvent en collège, qui se trouvent en lycée, qui se trouvent voire à l'université, que vous connaissez mieux que quiconque, Patrick Demuy, parfois, je ne dis pas l'inculture, mais le fait que finalement on ne traite pas souvent les sujets entre guillemets religieux, mais qui font partie du patrimoine, parce qu'ensuite on ne peut pas comprendre l'histoire, on ne peut pas comprendre les monuments si on n'a pas quand même un minimum de base, et de ne pas dire au milieu de la cathédrale il y a une table sans savoir que c'est un autel.
Et oui, c'est sûr, le manque de culture religieuse est assez préoccupant. J'ai pu l'expérimenter quand j'enseignais à l'université, mais après tout, nous sommes là pour apprendre les choses.
Bien sûr.
Hein. Mais on pourrait dire, on dirait aussi, du manque de culture de mythologique, pour comprendre les œuvres de l'Antiquité ou de la Renaissance, de l'époque moderne, si on n'est pas un peu familier.
Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau, et j'en ai des exemples tous les jours, hein, les gens branchés sur leur portable, branchés sur Internet, et qui, par exemple, sur les questions de fond dont on parle actuellement sur l'antenne de RCF, ont bien du mal à engager une conversation, un discours, parce que là, il y a quand même une vacuité, c'est l'espace du vide, quoi.
Voilà, mais pourtant, c'est très simple. C'est très simple, vous savez, la façade de la cathédrale, elle a été conçue par des chanoines qui étaient des savants, des exégètes, des théologiens, et qui ont pu y glisser un certain nombre de symboles, et on peut dérouler différents degrés de lecture. Mais au premier abord, elle est vraiment une catéchèse qui s'adresse aux fidèles. Bon, alors il suffit de quelques personnes de bonne volonté pour en être les intermédiaires. Bon, ça se fait encore aujourd'hui, évidemment. Hein. Vous savez qu'il y a dans la cathédrale un groupe qui s'appelle Art et Foi, qui assure l'accueil
formation,
des
oui.
visiteurs
oui.
Et peut apporter ses réponses à nos contemporains.
Je me permettais, bien entendu, Patrick Demy, de faire gentiment cette remarque, parce que moi-même, je suis un béotien. Mais tout de même, quand on voyage à travers la France, quand on voyage et qu'on découvre des monuments, quand on découvre des cathédrales, quand on découvre même des églises, bah, il faut avoir un minimum de base pour comprendre, ou alors on passe à côté. Et on passe à côté de réalité, mais aussi de richesse, d'un patrimoine qui veut dire quelque chose de notre propre histoire.
Et oui, il faut lire la Bible.
Voilà, merci en tout cas Patrick Demy d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt sur RCF.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h22 en région, Véronique Alzieux du réseau national de RCF vous propose tout au long de cette semaine des haltes spirituelles avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Le thème ce jeudi, de la mort à la vie, le sens de la semaine sainte, nos propres passions.
Suite de nos entretiens consacrés au sens de la Semaine Sainte avec vous, Père Étienne Véteux, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Reims et vous nous accompagnez dans ces réflexions. Des réflexions pas forcément toujours très simples parce que on est quand même face à un mystère et on essaie de mettre des mots sur quelque chose qui nous dépasse très largement. Alors c'est le travail des théologiens, des exégètes. Mais ça reste un sujet un peu complexe.
C'est vrai qu'on touche des réalités très très quotidiennes de la vie, la souffrance, la vie, la vie et les morts. Mais en même temps, la grandeur de Dieu et puis la grandeur de l'être humain. La complexité de ce qu'est un être humain fait qu'on a besoin de plusieurs images pour dire cette réalité.
Alors la complexité, elle touche aussi le cœur de ce mystère qui consiste à dire qu'avec Jésus, la vie a vaincu la mort. Quand on regarde nos vies et le simple fait que on va tous mourir, ça, c'est à peu près la seule chose dont on est sûr, on peut en douter. Sans compter le monde, on en parlait dans une émission précédente, le monde n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux qu'il y a 2000 ans.
Oui, il suffit de regarder les nouvelles, on est face à des guerres, des injustices, on avait l'impression qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait être entré dans une période de plus de paix, que les conflits étaient en train de se résorber, puis en fait non. Non, il n'y a peut-être jamais eu autant de conflits. En tout cas, on est au courant de conflits partout sur la Terre. Et puis, malgré les progrès de la médecine, des virus, des maladies. Et pour nos vies personnelles aussi, c'est vrai. La vie est belle et puis la vie est difficile quand même pour chacun d'entre nous.
Et fragile.
Et très fragile. Et très, très fragile. Donc, on peut effectivement se dire, mais qu'est-ce que le Christ a réellement fait? Qu'est-ce que ça a vraiment changé?
À quoi ça a servi?
À quoi ça a servi? Et il me semble que probablement ça nous pousse, ce réalisme nous pousse à dire quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que le Christ n'est pas venu pour nous éviter la passion, mais pour nous permettre de la vivre. Mais peut-être qu'il faut qu'on revienne sur cette question plus concrètement, c'est-à-dire que nous avons tous individuellement à accueillir le salut, à accueillir ce oui de Jésus pour le vivre nous-mêmes, et nous pouvons tout à fait le faire ou ne pas le faire. Et notre vie, en fait, est une série d'étapes où nous accueillons ou nous n'accueillons pas, et nous grandissons, et parfois nous ne grandissons pas, mais souvent nous grandissons avec des hauts et des bas. Dans ce processus qui... Alors, on pourrait dire de salut, pour le dire autrement, d'abandon à Dieu, de oui à Dieu et de oui aux autres. Est-ce que ça va vraiment ensemble? En fait, une autre manière de le dire, c'est d'amour. Et alors ça, c'est déjà pour nous personnellement. Par contre, il y a aussi le fait que à la fois le Christ nous sauve, mais en nous demandant de participer en accueillant, si on est libre là-dedans, mais aussi il nous demande d'être de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi, par notre vie transformée, d'aider les autres. Il y a une partie de ce salut qui se transmet par notre action en faveur de ceux qui, des autres qui souffrent, notre attention aux autres, notre amour pour les autres, et puis même nos combats très concrets pour la solidarité dans la société, pour changer la société autant que l'on peut.
Pourtant, relate régulièrement la passion du Christ, la manière dont il a été traité avec violence, il a été battu, au risque de vous heurter. C'est rien par rapport à ce que certaines personnes vivent dans des situations de torture, de violence extrême, et on sait que l'homme en est capable. Vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été dans l'histoire de l'humanité un moment charnière. Il y a eu, on dit qu'il y a un avant et un après Auschwitz, par exemple. La mort et la souffrance du Christ sont une réponse à ces souffrances indicibles que certaines personnes traversent ou auxquelles elles sont confrontées, et d'ailleurs dont elles meurent.
J'avais visité Auschwitz l'année dernière, et une amie qui était avec moi, et on est sortis, bon, on est tous sortis bouleversés bien sûr, mais elle me disait, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui avaient souffert plus que le Christ. Et c'est vrai, et c'est pas que à Auschwitz, c'est-à-dire que on peut pas du tout dire que le Christ a souffert plus que tout le monde, c'est plus que le Christ a souffert, et qu'il peut rejoindre chaque être humain dans sa souffrance à lui. Et il y a eu des récits, alors ça de la part de juifs qui étaient dans des camps de concentration, où on raconte qu'un jour on voyait un adolescent qui avait été pendu.
C'est Elie Wiesel qui raconte ça.
Exactement, Elie Wiesel qui raconte ça. Et puis il y a une voix qui s'élève en disant « Mais où est le Messie ?» Et quelqu'un juste derrière lui lui dit bah, « il est là, c'est lui ».
Pendu au gibet.
Ouais, c'est lui qui est pendu au gibet. Donc, il ne s'agit pas de dire « le Christ a vécu quelque chose de plus terrible que tout le monde », mais le Christ peut être en solidarité avec tout le monde, dans ses souffrances. Et c'est vrai que, dans un sens, même si on est appelé à transformer la société, on est aussi appelé à se rendre compte qu'il y a une impuissance humaine face au mal. Et dans un sens, on n'a pas encore complètement parlé du mystère pascal avec le vendredi saint et samedi saint et le dimanche. Il y a encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des dons que Dieu nous fait pour notre vie quotidienne parce qu'on est face à des réalités qui dépassent nos propres forces. Et on a besoin d'une force que l'on n'a pas par nous-mêmes. Et ça, éventuellement, on peut revenir sur le jeudi saint là-dessus. Et puis, il y a la fin du temps pascal. C'est-à-dire que la semaine sainte, elle nous porte à Pâques, mais Pâques nous ouvre à un cheminement de 50 jours. Et ce qui est frappant, c'est que le carême, c'est 40 jours. Le temps pascal, 50 jours.
Jusqu'à Pentecôte ?
Jusqu'à Pentecôte. Donc, jusque à la fête du don de l'Esprit Saint, qui est vécu 50 jours après la résurrection, simplement pour dire, on a presque besoin de plus de temps pour entrer dans la résurrection que pour se préparer par le jeûne ou par la prière à la passion. C'est presque plus facile de faire pénitence que d'entrer dans la joie. Il y a un paradoxe ici, c'est que nous désirons profondément la joie, nous désirons la paix, et c'est Mais c'est difficile d'y entrer.
Mais c'est difficile parce que, comme on le disait, on n'est pas toujours sûr que la vie a vraiment vaincu la mort et qu'il faut sans cesse faire de nouveau un acte de foi pour entrer dans ce mystère et puis y adhérer.
Oui, on est face à quelque chose. En fait, on est face à quelque chose où on voit le mal là et on a du mal à dire on peut avoir la vie au milieu de ça.
Merci Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. On vous retrouve dès demain matin sur RCF National au micro de Véronique Alzieux pour conclure avec un dernier numéro en cette semaine sainte d'une halte spirituelle. Nos auditeurs sur RCF en région auront la possibilité de l'entendre évidemment dans le magazine régional demain soir, 18h30, l'heure du journal régional. Les titres de ce jeudi 28 mars, dimanche, sera célébrée la fête de Pâques dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Cette fête est une grande joie pour tous les diocésains que nous avons rencontrés. Pour vivre cette fête en famille ou entre amis, le chef du restaurant Arban, Philippe Mille, nous donnera ses bons conseils culinaires. Lieu de prévention et de soins, d'information, d'éveil et de culture, la première maison des 1000 jours de l'aube a été inaugurée, découverte.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce dimanche, les diocésains se préparent à vivre le dimanche de Pâques, un moment de joie partagé par toute l'Église. La tête plongée dans les préparatifs, on a demandé à certains diocésains de Reims et des Ardennes ce que représente pour eux la fête de Pâques.
Pâques, c'est une grande fête qui nous invite plus que jamais à l'espérance, et c'est pour moi surtout une renaissance, c'est-à-dire que je rencontre tellement de personnes qui sont dans l'angoisse, les difficultés, je leur dis, vous allez voir, la Semaine Sainte va s'écouler, et avec la résurrection, vous allez reprendre des couleurs, vous allez reprendre de la vie.
C'est l'essentiel de notre foi, c'est la résurrection.
Ça veut dire le salut pour le monde. Et l'espérance.
C'est une nouvelle vie. Pour nous, c'est ressusciter Jésus ressuscité pour nous donner une seconde vie, pour connaître dans la vie la joie de sur la terre et au ciel.
L'occasion de demander aux diocésains comment ils vont vivre cette fête de Pâques ce dimanche 31 mars.
Le jour de Pâques, c'est vraiment une joie qu'on retrouve un jour au ciel.
Eh bien, la veillée pascale dans la paroisse. Et puis le dimanche de Pâques, je retourne chez les bénédictines au monastère avant de retrouver la famille pour une grande fête de famille comme tous les ans.
Eh bien dimanche, je suis en famille, on sera tous réunis.
On invite des amis.
Parce que nos enfants habitent loin.
Je vais le vivre en famille, avec mes enfants, mes petits-enfants. C'est là où je peux rendre grâce parce que j'ai vu des belles avancées dans la foi de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants.
Nous sommes réunis en famille et nous prions tous à la résurrection de notre Seigneur.
Et les moments conviviaux en famille sont souvent partagés autour d'un bon repas avec traditionnellement l'agneau pascal et du chocolat. Philippe Mille, chef du restaurant Arban qui ouvre demain à Reims, donne quelques conseils de préparation culinaire.
On va avoir les carrés, on va avoir les selles d'agneau, on va avoir le gigot, puis on va avoir l'épaule. Moi, j'aime bien travailler l'épaule. Je trouve que c'est une partie, il y a encore un peu de gras dedans, il y a un peu de muscle, mais pas trop. On a quelque chose un peu filandreux, mais très gourmand, un peu gélatineux également. Moi, je vais la mettre dans une plaque. Juste rôtir légèrement avec une petite pointe d'huile, une petite pointe de beurre, un assaisonnement, une petite fleur de sel, un peu de poivre. Juste rôti, comme ça, caramélisé de chaque côté. Et puis après, mis au four gentiment avec une petite garniture. On va mettre des petites carottes coupées en dés, des petits oignons, pourquoi pas une échalote, une belle gousse d'ail, un peu de thym, un peu de romarin, et puis on va mettre au four. Et puis au fur et à mesure, on va y mettre un tout petit peu de liquide, soit du champagne, hein, pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, ou alors un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Et puis on va commencer à voir ces petits sucres. Alors, ce que j'appelle les petits sucres, c'est la caramélisation qu'il va y avoir au fond de la plaque et qui vont donner le goût. Et en fait, au fur et à mesure, on va arroser cette épaule d'agneau et puis l'assaisonner. Et puis elle va devenir moelleuse, elle va devenir gourmande. On va avoir ce petit jus qui va se former au fur et à mesure. Et puis au dernier moment, par-dessus, on va y rajouter des petites herbes. Une fois cuite, on va mettre un peu de ciboulette ciselée, enfin vraiment coupée très fine, des petites branches d'estragon, pourquoi pas. Voilà, toutes les herbes qu'on peut trouver, et puis un peu de croustillant. Bon, voilà, des petits morceaux de pain, pourquoi pas, il vous reste du pain de la veille, on va le couper en petits dés, puis hop, le faire rôtir avec un petit beurre noisette, parsemé par-dessus, pourquoi pas, quelques tomes des Ardennes un peu râpées au dernier moment dessus. Voilà, la gourmandise, du goût, de l'assaisonnement, du produit, tout simplement.
Ça nous met l'eau à la bouche. Et puis Pâques, c'est aussi synonyme de chocolat, souvent. Alors là, c'est pour les gourmands qui vont jusqu'au dessert. Est-ce qu'on a une idée là qui vous vient tout de suite en tête? Pâques, le chocolat, ça vous donne envie de quoi, chef Philippe Miller?
Moi, ce que j'aime bien dans les desserts, c'est qu'il n'y a pas trop de sucre. Hein. Donc j'aime bien les chocolats noirs, les 70-80%, pourquoi pas. Mais par contre, avec plusieurs textures. Donc un biscuit, pourquoi pas un biscuit de chocolat sans farine, avec un chocolat bien croustillant. Voilà, on appelle ça un chocolat tablé, très fin, qui va redonner vraiment ce croquant. Et puis une belle mousse chocolat, pourquoi pas une petite fleur de sel dessus. Et puis ce que j'aime bien aussi, que le chocolat, ce qui fonctionne très bien, une petite pointe d'huile d'olive comme ça, hop, ça réveille tout de suite avec la fleur de sel, l'amertume un peu du chocolat, voilà, ça réveille, les papilles vivent, et c'est ça qui est très important pour nous.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. On reviendra prochainement sur l'ouverture du restaurant Arban à Reims par le chef Philippe Mille, dont le premier service est prévu demain vendredi midi. Et d'ailleurs, ce vendredi, Altaïr Conférence vous emmène en Équateur avec Linda Paquette et Martin Parent. Deux conférences seront données par les deux ciné-conférenciers dans la salle Sorbonne de la maison Saint-Sixte, une première à 14h15, une autre à 18h30, entrée par l'Institut catholique de Paris, 6 rue du lieutenant Erdouin. Tarif 10 euros, renseignements et inscriptions au 06 71 91 97 72. Évidemment, on peut se présenter sur place sans s'inscrire. L'entrée se fait donc par lycée Pessiru du lieutenant Erdouin. Les amis de l'Ermitage Saint-Valfroid vous convient à participer à leur loto de Pâques ce samedi à 20h, ouverture des portes à 18h, à la salle polyvalente de Margu, avec de nombreux lots à gagner dans une ambiance féerique. Il vous sera proposé une petite restauration, des gaufres et un bar. Les gains de ce loto seront utilisés pour embellir le site de Saint-Valfroid. Rendez-vous donc samedi à partir de 18h à la salle polyvalente de Margu. Début du loto à 20h. À destination de futurs parents et parents d'enfants de 0 à 3 ans, la première maison des 1000 jours dans l'Aube a été inaugurée début mars à la chapelle Saint-Luc. Olivier Suzanne, directeur de la cave de l'Aube, nous explique les motivations de cette création.
Je suis arrivé il y a à peu près 2 mois, donc j'ai pris en route la politique de la petite enfance de la CAF, et je me suis tout de suite aperçu que sur la chapelle Saint-Luc, il y avait un projet qui était intéressant, innovant, parce qu'il englobait une pluralité de services qui œuvrent pour la petite enfance et le soutien à la parentalité, des structures comme les crèches, des relais petite enfance, la présence de la PMI, des lieux d'accueil pour les enfants et les parents, et tout ça correspondait quelque part à nos objectifs stratégiques. Rapidement s'apercevoir, quand on regarde ce projet, quand on parle aux acteurs de ce projet, que l'offre a été construite avec l'ensemble des acteurs locaux, et que ça, évidemment, c'est quelque chose de très important, parce que ça apporte une réponse aux besoins, une réponse pertinente aux besoins.
Un lieu accessible avec des horaires adaptés pour tous les parents, Olivier Suzanne.
La maison va leur apporter vraiment un plus. Parce qu'il faut savoir que la maison va regrouper des services d'aide et des endroits où les parents peuvent avoir des réponses. On est vraiment sur cette logique-là, où les parents vont se poser la question de la bonne alimentation de leur enfant, comment ça se passe au niveau du langage de l'enfant pendant les 3 premières années, le comportement de l'enfant, avec peut-être aussi parfois des troubles du comportement ou des retards au développement de l'enfant.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten, porté par le Centre Municipal d'Action Sociale Chaplin et soutenu par la ville de la Chapelle Saint-Luc. Ce nouveau lieu va coûter pour sa première année de fonctionnement plus de 73 000 euros, financés par la CAF, la ville, le département et l'Agence Régionale de Santé. Une deuxième maison des 1000 jours verra le jour dans les prochains mois à Arcis-sur-Aube. 18h38, Marion Yernard est avec nous ce jeudi soir. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la météo. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi?
Une fin de semaine plutôt triste et sans rayons de soleil pour ce vendredi 29 mars, avec 10 degrés dans la matinée et de la pluie pour toute la région, sauf pour Rethel et Vouziers dans les Ardennes. Reims-Châlons et Épernay dans la Marne auront des nuages. 12 degrés au programme pour l'après-midi et des nuages pour Charleville-Mézières et Sedan dans les Ardennes, Reims, Châlons et Épernay dans la Marne, ainsi que Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Le reste de la région aura malheureusement de la pluie. Dans la soirée, ce sera encore et toujours de la pluie avec un temps gris et 8 degrés. Bonne fête en avance au Gladys et bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion, et nous avec un petit peu d'avance, on vous souhaite déjà de joyeuses Pâques parce que demain exceptionnellement il n'y aura pas de journal régional, même s'il y a un magazine régional, un 18-19 à 18h10, soyez présents au rendez-vous, mais qui dit pas de journal dit pas de météo, donc une très belle fête de Pâques Marion et on vous retrouve mardi.
Très belle fête de Pâques à vous.
Merci beaucoup, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF, dans quelques instants on reçoit le père Thibaut de Rusquet pour parler de comment il vit son carême.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Père Thibaut de Rusquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous répondre à cette question que l'on pose à l'ensemble des religieuses, des religieux, des prêtres du diocèse de Reims et des Ardennes pendant ce temps du carême. Que représente le carême pour vous ?
Pour moi, le temps du carême, c'est vraiment une réponse à l'invitation du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Et j'aime beaucoup entendre d'abord que c'est le Seigneur qui vient nous parler et qui désire que nous nous rapprochions de lui. Et du coup, nous essayons de faire quelques efforts pour mieux l'écouter, pour être plus disponible et pour répondre à ce qu'il veut pour nous.
Vous-même, comment vivez-vous ce temps fort, Père Thibaut de Rusquet ?
Eh bien, ça dépend des jours, ça dépend des moments, mais on a la chance d'avoir le carême qui dure 40 jours et du coup d'avoir plusieurs moments peut-être pour se reprendre, pour que je me reprenne. J'essaie d'être plus attentif à ma prière, un peu de sobriété aussi dans certains moments, et puis d'être attentif à ce que le Seigneur désire. C'est vrai que le carême, eh bien, il y a ces différents dimanches qui ponctuent ce temps liturgique et qui nous invitent à comprendre ce que Dieu veut avec nous et pour nous.
Le fait de vivre ce temps en communauté, avec vos frères prêtres, avec les diocésains aussi, est-ce que ça renforce cette foi et ce temps du carême ?
Je trouve que ce qui est beau dans le temps du carême, c'est de pouvoir le vivre, c'est vrai, en communauté, dans l'espace missionnaire ou avec d'autres personnes, où souvent il y a des propositions un peu particulières. Nous, sur notre espace missionnaire, on propose un parcours sur la prière. Et du coup, c'est à la fois une invitation pour certains à renouveler la prière, mais aussi pour moi à renouveler ma prière. Et puis c'est vrai que le carême finit par la grande semaine sainte, qui est un temps particulier, à la fois diocésain avec la messe chrismale, et puis en paroisse avec les célébrations de la semaine sainte.
Père Thibaut de Rusquet, vous avez vous-même souligné le mot « effort ». C'est vrai que ce temps du carême, on l'associe souvent à ce temps où l'on consent à faire un petit peu plus d'efforts pour donner du temps à d'autres choses, d'autres personnes. Vous-même, est-ce que vous consentez à faire justement quelques petits efforts sur un certain plan ?
J'essaye, entre autres, prendre un peu plus de temps pour la prière, être attentif à certains moments, d'avoir des repas plus sobres aussi, et puis d'être attentif aussi dans les relations, à être à l'écoute, à être disponible.
Comment ce message-là, on le fait passer aux diocésains aussi que vous rencontrez, à leur dire, voilà, finalement, le temps du carême, c'est un temps de partage, c'est un temps qu'on essaye de vivre en communauté.
Il y a les différents moments qu'on peut avoir ensemble avec les messes et les homélies. C'est vrai que nous, on a axé sur la dimension de la prière parce que on a besoin de se soutenir aussi et puis de se renouveler aussi, de rechoisir chaque jour. Et c'est un exercice, c'est un effort. Mais le Seigneur est là, il nous attend, il est fidèle.
Merci Père Thibaut de Rusquet de nous avoir éclairé sur la manière dont vous vivez le carême, dont vous le partagez. On vous souhaite d'ailleurs une bonne fin de carême, une très belle fête de Pâques, c'est dans quelques jours, et on vous dit à très bientôt sur RCF.
Merci, vous aussi, bon chemin de carême.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h43, de la paroisse Saint-André à Charleville-Mézières, dans le diocèse de Reims et des Ardennes, le lundi de Pâques est organisé chaque année le pèlerinage de Saint-Lyé. Le père Baptiste Bienvenu et Daniel Poquet sont en ligne avec Jean-Pierre pour en parler.
Père Baptiste Bienvenu, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
On va retrouver bien sûr tout de suite, on lui dit bonjour, Daniel Poquet qui est à vos côtés. Alors Baptiste Bienvenu, c'est un rendez-vous habituel le lundi de Pâques, le pèlerinage de Saint-Lyé?
Mais oui, voilà, tous les ans, le lundi de Pâques, c'est un grand moment pour la paroisse, Saint-Lyé et Saint-Pierre de l'Avance, en l'espace missionnaire de Charleville-Mézières. Donc c'est aussi un grand moment pour l'espace missionnaire dans son ensemble, et puis même au-delà, parce que c'est une fête qui rayonne au-delà même de notre diocèse.
Alors il faut dire que ça se prépare. Est-ce qu'on a déjà, et vous l'avez forcément, un petit programme de cette journée, de telle sorte que des auditrices ou des auditeurs qui habitent la Marne, qui se disent on va faire un petit tour dans les Ardennes, profitent de l'occasion pour faire escale à Charleville-Mézières?
Eh bien oui, donc le pèlerinage se déroule un peu sur toute la journée. Hein. On ouvre les portes de l'église vers 8h30. On prendra un temps de prière avec les personnes qui organisent le pèlerinage et qui préparent la messe et l'accueil. Puis ensuite, donc à 9h, on lance un peu l'accueil. Il y a des personnes qui sont prévues pour accueillir les pèlerins qui veulent déjà venir prendre un temps de prière dans l'église auprès des reliques de Saint-Lyé. Donc voilà, à partir de 9h, l'accueil. Et puis la messe sera célébrée donc à 10h30. Et elle sera présidée par Monseigneur Étienne Véteux, notre auxiliaire.
Monseigneur Étienne Véteux sera là, dans l'espace missionnaire. Et puis à chaque fois, on va y revenir sans doute avec Daniel Poquet, il y a la présence au-delà des Ardennes. Il y en a peut-être moins maintenant, mais il y en a toujours des Belges qui viennent. On interrogera tout à l'heure Daniel Poquet, mais c'est vrai, hein, on vient de l'extérieur.
Voilà, donc cette année, il y a un quart de Belges qui est annoncé. Donc on accueillera donc nos amis belges, donc ils viendront voilà pour la messe qui sera suivie donc de la procession des reliques et puis la démarche de vénération par tout le monde et puis enfin tous ceux qui veulent. C'est l'occasion pour nous de prier pour les enfants. Saint-Lyé, c'est le saint patron des enfants, les enfants en particulier peut-être malades ou qui ont des difficultés. Donc voilà, les familles, les parents, grands-parents, oncles et tantes, voilà, viennent confier les enfants de leur famille. Et puis donc la procession est précédée de tous les enfants qui tiennent une bougie. Voilà pour le côté festif. Et puis pour nous rappeler quand même que nous sommes le lundi de Pâques, on propose aux enfants de faire une chasse aux œufs. Voilà, la paroisse organise une chasse aux œufs de Pâques. Et puis peut-être pour les plus grands, il y a le verre de l'amitié qui les attend dans les salles paroissiales. Et puis ensuite on propose un barbecue et repas partagés, notamment aussi pour celles et ceux qui viennent de loin. On pense à ceux qui pourraient venir d'ailleurs dans notre diocèse, un peu plus loin que Charleville-Mézières, et puis aussi pour nos amis belges, pour qu'ils puissent passer la journée, ou bien sur place, ou bien leur permettre de passer une journée dans les environs de Charleville. Quoi.
Baptiste, bienvenue, c'est l'occasion, puisque vous avez à vos côtés Daniel Poquet, enfin ça mobilise aussi l'espace missionnaire, il faut le dire. Daniel Poquet qui a travaillé sur l'histoire, qui a même des projets, il est à vos côtés. Daniel Poquet, donc bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à ce pèlerinage de Saint-Lyé. Alors est-ce qu'on connaît d'ailleurs la vie de Saint-Lyé? D'où vient Saint-Lyé?
Alors oui, tout à fait. Alors comme moi je suis natif du quartier de Mont, vous pensez bien qu'il me tenait à cœur de me documenter fortement sur son histoire. Et Saint-Lyé donc vient du Loiret exactement, puisqu'il est né en 485. Ces reliques ont été transférées vers 1510 dans l'église de Mont. Et depuis cette période, le pèlerinage a été mis en place. Il attire énormément de monde. À l'époque, jusqu'au 19e siècle, tout le quartier de Mont était rempli de pèlerins qui venaient assister au pèlerinage de Saint-Lyé.
Comment expliquer, Daniel Poquet, que, par exemple, les Belges sont venus en grand nombre? Et est-ce que les reliques, au cours de l'histoire, sont toujours restées à Saint-Lyé, ou avec les guerres, avec parfois les problèmes qui peuvent se poser, on a bougé les reliques, ou elles sont toujours restées là?
Alors, effectivement, et c'est les guerres qui vont faire bouger les reliques, effectivement, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les reliques seront transférées à la paroisse de Lafrangeville pour y être cachées. Et elles reviendront après. Elles resteront tout le temps ici, après elles ne bougeront plus. Par contre, pour savoir comment s'est développé un peu cette attirance de Saint-Lyé pour nos confrères belges, hein, c'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le prêtre qui était ici et s'est retrouvé en captivité avec un prêtre qui officiait en Belgique. Et après, ils ont beaucoup discuté et c'est ce prêtre belge qui finalement a fait développer du côté de la Belgique proche, hein, du côté de Palissel principalement, ce culte de Saint-Lyé.
À côté de Bouillon, donc, par conséquent, hein, voilà, du côté de Palissel, Bertry, Libramont. C'est comme ça qu'est née cette fraternité franco-belge à Saint-Lyé.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on va accueillir, effectivement, une quarantaine de pèlerins belges.
Alors, Baptiste, bienvenue, on parlait tout à l'heure, Daniel Poquet. C'est vraiment un pèlerinage pour les enfants, pour la guérison des enfants, quand même. C'est assez frappant au cours de l'histoire.
Oui, on confie plus particulièrement nos enfants à la prière de Saint-Lyé. Peut-être que M. Poquet aurait des précisions sur cette démarche, cette attention aux enfants, mais ce qu'on peut retenir de la vie, en tout cas de Saint-Lyé, c'est un saint qui nous invite à entrer dans la joie simple, la joie des enfants. C'est celui, voilà, qui est tout simple devant Dieu, qui s'est fait même très obéissant à la volonté de ses supérieurs quand il était moine. C'est un petit. Saint Lié, c'est un petit. Et donc, il nous rappelle que le Christ a la préférence pour les petits, pour celles et ceux qui se savent petits, celles et ceux qui se savent enfants de Dieu. Alors voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien confier nos enfants. Et de fait, on reçoit beaucoup de témoignages en paroisse de familles qui sont venues confier une situation compliquée en lien avec un de leurs enfants, voilà, qui viennent nous témoigner simplement que voilà, la situation a pu se débloquer ou qu'ils ont pu vivre malgré tout une joie quand même en famille autour de leur enfant qui vivait des difficultés.
Baptiste, bienvenue. On va bientôt se quitter en une phrase. Le rendez-vous, c'est le lundi de Pâques. C'est à partir de 8h, 8h30 que l'église est ouverte. Il y a un accueil à partir de 9h, la messe à 10h30 avec Monseigneur Véteux et puis un rassemblement convivial, la prière. La simplicité de l'enfant, c'est un peu autour de tout cela et du pèlerinage que vous allez partir. Alors, merci à Daniel Poquet. On aura l'occasion de parler peut-être plus tard, parce que là, c'est un peu juste pour nous, mais d'un petit recueil qui permettrait de suivre les pas de Saint Lié. Hein. Daniel Poquet, vous êtes partant.
Oui, tout à fait. Je suis dessus. J'espère que d'ici quelques mois, le projet sera bouclé.
Merci Daniel Poquet, merci Baptiste, merci à vous. Bienvenue. Et puis un beau lundi de Pâques avec les Ardennes. Venez nombreux. Saint Lié, c'est dans le quartier de Mont, à Charleville-Mézières. Et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Pierre, à vous également. Et si vous le voulez bien, je vous propose un retour dans la paroisse Saint-André avec un nouveau témoignage autour du carême, cette fois avec le père Pierre de Curèze dans quelques instants.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Père Pierre de Curèze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin à 7h40 pour répondre à cette question que l'on a posée tout au long du carême à l'ensemble des prêtres et des religieux, des religieuses du diocèse de Reims et des Ardennes qui se sont présentés à ce micro. Que représente le carême pour vous, Pierre de Curèze ?
Alors, le carême pour moi, c'est un chemin vers Pâques, un chemin de préparation ou de découverte aussi intérieure, de là où j'en suis aussi dans ma foi avec le Seigneur, et puis un chemin fait en Église, en fait. Voilà.
Vous-même, comment vous vivez ce temps fort du calendrier chrétien ?
Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, ce qui compte, c'est par exemple de pouvoir déjà suivre la liturgie des heures. Déjà, c'est la liturgie des heures, c'est quelque chose qu'on fait toujours, mais ça m'aide vraiment à rentrer dans ce carême parce qu'on change les hymnes, on chante aussi les antiennes. On entend souvent, mais revenez à moi, revenez à moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis il y a toutes les propositions de la paroisse et après, il y a les propres choses que je fais personnellement.
Avant de revenir d'ailleurs sur les choses que vous faites personnellement, est-ce qu'il y a des temps que vous avez vécu en communauté durant ce carême 2024 avec vos paroissiens dans votre espace missionnaire, par exemple, Père Pierre de Curèze ?
Alors oui, on a décidé de recentrer sur la prière davantage, selon l'appel du pape. Par exemple, tous les lundis soirs, nous avons une conférence avec un thème sur la prière. Ça, par exemple, c'est un exemple de proposition que nous faisons sur notre espace missionnaire, en fait.
Père Pierre de Curèze, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un temps pendant lequel on a tendance à dire que l'on fait des efforts ou peut-être que l'on se prive de choses pour consacrer davantage de temps à d'autres choses, d'autres personnes, etc. Est-ce que vous-même, Pierre de Curèze, vous allez dans cette voie quelque part ?
Oui, c'est important. Hein. Et pour moi, le plus simple, le plus classique, donc c'est l'histoire de jeûner, de prier et aussi d'être auprès des plus pauvres. Plutôt que de m'inventer à chaque fois des choses nouvelles, c'est tout simple, mais ça m'aide. Et puis je vois où je n'arrive pas vraiment aussi, en fait, à la fin de ce carême, parce que là, on est à la fin de ce carême, je vois aussi tous mes lieux d'attachement encore davantage. Voilà.
Et chaque carême est différent parce que comme vous êtes un des derniers prêtres à passer pour ce carême 2024, c'est vrai que beaucoup nous disent il y a quelque chose qui m'habite, un sentiment particulier qui m'habite cette année plutôt qu'une autre année. Est-ce que vous-même, il y a un sentiment différent en 2024 par rapport au carême de 2023, de 2022 ou de 2010 ou des années 2000 par exemple, Père Pierre de Curèze ?
Oui, en fait, cette année, ce que je découvre dans ce chemin de carême, c'est vraiment des attachements. J'ai du mal à avoir des temps très gratuits avec les gens autour. Gratuitement. Et ça, je m'en rends compte. Le Seigneur me renvoie ça et ça m'appelle encore à me convertir. Et je continuerai après le carême, je crois, parce que c'est un bel appel que me fait le Seigneur.
Eh bien, merci Père Pierre de Curès d'être passé au micro de RCF Reims-Ardennes. On vous souhaite une bonne fin de carême, évidemment une très belle fête de Pâques, et on vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup.
Vous étiez le dernier prêtre à intervenir au sujet de comment vous vivez le carême en cette année 2024. On remercie évidemment tous les prêtres, les religieuses du diocèse de Reims et des Ardennes qui se sont succédés à notre micro en cette période. On souhaite à tout le monde une excellente fin de carême et une très joyeuse fête de Pâques.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, on retrouve désormais Astrid Tesson, vice-présidente des associations familiales catholiques du côté de Reims, notamment. Astrid Tesson, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous pour nous présenter un événement, une belle chasse aux œufs avec cette fête de Pâques qui se profile dimanche. La chasse aux œufs, on patientera un petit peu, ça sera lundi.
Oui, c'est ça. C'est l'occasion que nos familles se retrouvent, d'inviter un peu largement, de vivre un moment très convivial, très familial, juste après Pâques, dans la joie de la résurrection. Voilà, il y aura aussi un petit spectacle de guignol proposé pour les enfants ce jour-là.
C'est du côté de Cormontreuil, à la salle paroissiale, à partir de 16h, donc ce lundi 1er avril.
C'est ça, à partir de 16h jusqu'à 18h, pour un goûter et une chasse aux œufs et un petit spectacle. Ils vont chercher les œufs dans une partie du jardin. Et puis les plus grands, on va faire des relais, on va faire des petits jeux, on va faire des chamboules-tours. Et à chaque fois, ils gagneront un œuf. Eux, il y aura un peu plus de difficultés. Il faudra ajouter un petit peu de piment et fédérer un peu autour des plus grands. Que voilà, ce soit vraiment festif.
Et donc, on imagine que pour que la chasse aux œufs se passe au mieux pour tout le monde et qu'il y en ait assez pour chaque enfant qui va participer à la chasse, il faut tout de même s'inscrire pour participer à cet événement, donc lundi, du côté de la salle paroissiale de Cormontreuil.
C'est ça, il y a des retardataires qui veulent quand même participer. On essaiera de dire oui en dernière minute, mais idéalement, il faut quand même sortir avant samedi. Et voilà, l'adresse mail, c'est afcreims51@gmail.com.
afcreims51@gmail.com. Donc pour s'inscrire à cet événement, on vient de le dire, hein, c'est un après-midi chasse aux œufs avec aussi un spectacle de guignol à la salle Jeanne d'Arc derrière l'église du côté de Cormontreuil de 16h à 18h. Aussi pour aider l'association à vivre, parce que c'est jamais évident lorsqu'on est une association, Astrid Tesson, il y a une petite cotisation qui est demandée, notamment pour les non-adhérents.
Exactement, alors pour les adhérents c'est gratuit. C'est très simple d'adhérer aujourd'hui par internet. Voilà, les adhésions, c'est très facile. On tape AFC, adhésion, on trouve facilement. Et si une personne qui ne souhaiterait pas forcément adhérer, on demande une petite participation de 2 euros par enfant pour à la fois le goûter et les deux.
Ça veut dire qu'il est aussi, si je comprends un petit peu votre discours, Astrid Tesson, qu'il est encore temps de faire coup double, de s'inscrire en tant qu'adhérent pour pouvoir participer aussi cet après-midi, pas venir simplement, j'allais dire, en public libre.
Tout à fait, on pourra aussi adhérer sur place si les gens le souhaitent, il y aura des bulletins d'adhésion qui seront proposés. Voilà, c'est vraiment notre association, elle cherche vraiment à promouvoir la famille, à aider les familles, et donc au niveau national, mais aussi au niveau local, on organise beaucoup de choses, notamment aussi des bourses aux vêtements, des événements de fin d'année, on aura une rencontre qui est prévue déjà à Notre-Dame de l'Épine, en septembre, au début septembre, une rencontre qui sera chez les Sœurs de Saint-Thierry. Voilà, on a à cœur que les familles échangent, se soutiennent, créent du lien autour d'événements comme ça.
Effectivement, ça fait pas mal de beaux événements en perspective sur lesquels on aura l'occasion de revenir à chaque fois et puis aussi d'entendre votre président Dominique de Rouzé qui nous confiait en off, comme on dit, que finalement vous étiez une centaine dans cette association et que c'est un petit peu frustrant parce que on le sait bien, nous aussi avec nos auditeurs de RCF, il y a peut-être possibilité pour les associations familiales catholiques de Reims d'être un petit peu plus nombreuses en termes d'adhérents.
Oui, 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 je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui connaissent peu tout le travail des AFC, tout le travail aussi au niveau politique qui est fait pour faire entendre la voix des familles. Et voilà, nous sommes présents aussi dans les commissions, on est représenté à la CAF, on est représenté dans tout un tas d'instances publiques. Et plus on est d'adhérents, plus on a de voix et plus on a de place pour prendre des décisions en fait.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à Astrid Tesson de nous avoir présenté tout ce programme et l'action des AFC, des associations familiales catholiques. On donne un rendez-vous, c'est ce lundi, pour une chasse aux œufs et un spectacle de guignol à la salle Jeanne d'Arc, salle paroissiale de Cormontreuil, à partir de 16h. On s'inscrit, une adresse mail, afcreims51@gmail.com, afcreims51@gmail.com. Un grand merci à Astrid Tesson et une très bonne fête de Pâques avec un petit peu d'avance. À très bientôt.
Merci, joyeuse fête de Pâques à vous aussi.
Et puisque l'on souhaite les Pâques à tout le monde, encore une fois, Marion, demain vous ne serez pas avec nous, mais il y aura bien un magazine régional. Encore une fois, en avance, une joyeuse Pâques, Marion.
Joyeuse Pâques à tous.
Merci beaucoup. Évidemment, demain, 18h10, 19h, il y aura un magazine régional. Vous retrouverez notamment le témoignage de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera dès 7h du matin et même seulement à 7h l'invité de Jean-Pierre Benoît, puisque à l'heure des programmes habituels en matinée, notamment à partir de 7h40, il y a les offices qui seront proposés par le réseau national de RCF dans ce Triduum Pascal depuis le monastère des Bénédictines de Saint-Thierry dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que vous réentendrez donc dans le magazine régional. Le 3QA de 7h40 est décalé à 11h57. Et puis, bien d'autres invités, notamment Patrick Demuy, la halte spirituelle de Monseigneur Étienne Véteux. Tout ça, c'est de 18h10 à 19h ce vendredi. C'était Fabrice Gironet à la mise en onde ce soir. On vous remercie pour votre fidélité. Tout de suite, l'information nationale. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.